France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
C'est la peur permanente. Même chez toi, tu n'es pas en sécurité, parce que les frappes peuvent arriver n'importe quand. Il n'y a pas un endroit en Ukraine où on est vraiment en sécurité. Partout, c'est dangereux.
Nous avons tous vu tellement de morts, de blessés, de pertes, que c'est devenu une routine pour nous, qui ne suscite plus d'émotion.
La guerre, ce sont des passés et des futurs perdus. Et qu'est-ce qui nous reste ? Le présent, un présent lui aussi très précaire.
L'Ukraine traverse un hiver particulièrement éprouvant. Ces derniers mois, la Russie a intensifié ses bombardements contre le réseau énergétique ukrainien. Ces attaques à grande échelle plongent des villes entières dans le noir et les privent de chauffage au moment où les températures descendent par endroits sous les moins 20 degrés. Dans certaines régions, l'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Des écoles non chauffées ont dû fermer leurs portes. L'accès aux soins médicaux est aussi entravé. L'ONU proteste vainement contre ces actes contraires au droit international qui ne visent pas à obtenir un avantage militaire immédiat mais à décourager, à désespérer la population. L'invasion de l'Ukraine, lancée le 24 février 2022, s'est transformée en guerre d'usure et pas seulement sur le front. Si les forces russes n'ont pas encore soumis une armée inférieure en nombre et en matériel, c'est certes grâce au soutien international à l'Ukraine, mais aussi et surtout grâce à l'impressionnante combativité de la société ukrainienne. Alors, pour en venir à bout, les tirs d'artillerie, de missiles, de drones continuent de pleuvoir sur la population et personne n'est vraiment à l'abri nulle part. 4 ans après le début de cette guerre de haute intensité, quels sont les effets de la stratégie russe ? Les élans de patriotisme et de solidarité commencent-ils à s'épuiser ? La désillusion l'emporte-t-elle sur l'esprit de résistance ? Les Ukrainiens parviennent-ils encore à se projeter dans l'avenir ? Malgré les pénuries, les destructions et la liste des morts qui ne cesse de s'allonger, guerre en Ukraine, l'épreuve du temps, c'est un reportage signé Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Aurélie.
Avec Laurent Macchietti et Yachar Fazilov, vous êtes allés à la rencontre d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens que vous avez interrogés sur l'impact de la durée de la guerre.
Oui Yachar, c'est le fixeur ukrainien qui accompagne nos missions de reportage en Ukraine depuis 4 ans. Laurent Macchietti, c'est le technicien de reportage de Radio France. On retourne régulièrement ensemble sur le terrain depuis maintenant 4 ans pour raconter cette guerre aux auditeurs et auditrices. Mais on a vu aussi comment cette guerre a marqué le pays, les gens individuellement, collectivement, les morts, les destructions bien sûr, mais on a aussi voulu raconter la vie qui s'adapte alors que la guerre à grande échelle dans tout le pays entre dans sa 5e année. Ça dit bien l'importance de cette question du temps, hein, de la guerre dans les mentalités, dans les corps aussi. Et pour mesurer ça, pour le donner aussi à entendre aux éditeurs et aux auditrices de France Culture, on a voulu retourner voir des personnes qu'on avait déjà croisées dans nos reportages au début de la guerre, des voix ukrainiennes qui nous accompagnent depuis février 2022, parfois même depuis bien plus longtemps, puisqu'en ce qui me concerne, ça fait 18 ans que je parcours les routes d'Ukraine. Forcément, ça crée des liens.
L'invité de ce grand reportage est Yulia Shukan. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'Ukraine, où vous vous trouvez en ce moment ? Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, chercheuse au CERSEC, le centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centre-asiatiques. Vous êtes aujourd'hui dans la capitale, Kiev, mais c'est d'abord à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, que va nous emmener le reportage de Camille Magnard.
On se trouve au cimetière Litchakiv de Lviv, qui est sur une colline à l'est de la ville. C'est un cimetière historique et dans ce cimetière, il y avait un espace où on enterrait depuis maintenant 4 ans les soldats qui sont ramenés de tout le pays, qui meurent sur le front à l'autre bout du pays. Sauf que ce cimetière, il est complet maintenant, il n'y a plus de place pour mettre des nouvelles tombes. Donc on a trouvé un autre espace de l'autre côté de la colline et c'est un ancien site. Un monument à la gloire des soldats de l'armée rouge soviétique. Ça fait quelques années qu'on a démonté ces monuments soviétiques. C'est la désoviétisation qui a lieu ici en Ukraine depuis des années maintenant. Et on a décidé de dédier cet endroit aux soldats ukrainiens morts sur le front depuis le début de l'invasion russe. Sauf qu'il y a encore beaucoup de restes, des monuments, beaucoup de béton dans le sol. Donc il a fallu faire venir des marteaux-piqueurs, des tractopelles pour creuser une tombe. Là, il est 9h du matin, les équipes sont déjà au travail parce qu'à midi, il y a un enterrement qui est prévu comme il y en a quasiment chaque jour ici à Lviv depuis maintenant 4 ans.
Je suis Alexander Dmitriev, actuellement directeur du cimetière de Lichakiv. J'ai 39 ans et en ce moment, notre travail, c'est surtout d'enterrer les héros morts sur le front. Aujourd'hui, on doit enterrer deux de nos soldats. Ils étaient volontaires, engagés depuis le début de la Grande Guerre. L'un de la 125e brigade, l'autre de la 80e brigade d'assaut. Ils sont morts en 2024 et on les a identifiés avec leur ADN.
J'ai l'impression, moi, quand je viens à Lviv, et ça fait plusieurs années qu'on vient à Lviv depuis 4 ans, qu'à chaque fois qu'on vient, il y a une cérémonie d'enterrement d'un soldat qui est mort au front ailleurs dans le pays. C'est vraiment une réalité depuis... février 2022, il y a des soldats comme ça qui sont enterrés ici.
Oui,
presque tous les jours, on enterre nos héros. On peut compter sur les doigts d'une main les jours sans depuis 4 ans de guerre. Ce ne sont pas seulement des gens de Lviv, mais aussi des membres de familles déplacées de régions occupées. Leurs maris, leurs fils ou leurs filles sont allés défendre leur terre. Et comme les familles vivent ici, on les enterre ici.
Est-ce qu'on sait le nombre de soldats depuis février 2022 qui sont enterrés ici dans les cimetières de Lviv ?
Comme l'Ukraine est en état de guerre, on n'a pas le droit de donner le nombre de morts sur le front qui sont enterrés ici. Mais c'est à peu près 1500 personnes depuis 2022. Seulement dans notre cimetière de Lichakiv.
Très concrètement, comment on gère cet afflux de corps, de personnes à enterrer ? Quand on gère un cimetière, comment on fait pour trouver de la place, pour trouver des moyens pour leur donner une sépulture digne ?
Ici, à Lichakiv, on a déjà 3 parcelles où on enterre nos héros. Et par exemple, aujourd'hui, en creusant, on est tombé sur de la roche qu'on doit casser pour pouvoir aménager la tombe pour nos soldats.
Est-ce qu'on arrive à garder justement le fil des gens qu'on enterre tous les jours, de ces nombres qui s'accumulent, de cette place qu'il faut trouver? On arrive quand même à se souvenir de chaque personne et à célébrer chaque personne qui est mort au combat.
Chaque enterrement est singulier. Si on prend par exemple la parcelle 86A, la dernière à avoir été remplie, je peux dire de mémoire qui est enterré où jusqu'en 2024. Après, c'est plus difficile, ils sont tellement nombreux. Je connais leur histoire, je reste en contact avec leur famille. Chaque histoire est particulière. Chaque enterrement est éprouvant, même si c'est ton travail. Tu comprends bien que ce sont nos héros et qu'il faut les honorer.
Quand on traverse le pays, c'est quelque chose qui est frappant, qui est vraiment une image, c'est ces cimetières qui sont pleins d'allées, de tombes avec des drapeaux ukrainiens. On a l'impression que partout les cimetières débordent, et ce n'est pas qu'une impression, on voit qu'ici il faut trouver des espaces. Est-ce que ça peut durer encore? Il y a des dizaines, des centaines de milliers de jeunes hommes et de femmes qui meurent dans cette guerre. Est-ce que ça peut durer
Malheureusement, les cimetières vont continuer à se remplir parce que la Russie, vous le comprenez bien, ne va pas lâcher l'Ukraine. Et les Ukrainiens ne veulent plus revenir sous la domination russe. Personne n'acceptera ça. Depuis 2022, vous l'avez entendu vous-même, on disait « encore 2 ou 3 mois et ça ira ». Mais vous voyez depuis combien de temps ça dure déjà. On comprend bien que si la Russie l'emporte, ce sera comme dans les années 30, l'extermination totale des intellectuels ukrainiens, comme l'a fait le pouvoir soviétique avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sera même pire. On comprend bien ça. C'est pourquoi nos gars se battent, pour que nos enfants puissent grandir libres. Moi, j'ai perdu mon frère au combat. Tout ça va devoir finir un jour. Tout ira bien et on aura la victoire.
Oh, ça va bien. Merci, oui.
Oui, bah vous... Notre deuxième rencontre, ce sont plutôt des retrouvailles. Dans le sud ukrainien, région de Kherson, nous avons voulu revoir Yarina Chornohuz. Caporal-chef dans l'armée, engagée depuis 2020, Yarina est aussi une poétesse reconnue en Ukraine. On la rejoint dans une pinède où les soldats de son bataillon s'entraînent, mais pas elle. La pluie et le brouillard empêchent son drone de voler ce jour-là.
Yarina, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui après 3 ans, après notre première rencontre, déjà pour ce grand reportage pour France Culture. À l'époque, c'était la première année après le début de l'invasion russe. À l'époque, c'était sur le front du côté du Donbass. Vous étiez dans les services d'évacuation des soldats blessés. Qu'est-ce qui a changé pour vous pendant ces 3 ans?
Для мене, ну, я змінила свою військову спеціальність. Ну, захотіла мати
J'ai changé de fonction dans l'armée. Je voulais avoir plus d'impact sur le champ de bataille. Donc je suis devenue pilote de drone de combat. Mais malgré tout, la médecine militaire me manque beaucoup.
Територія, на якій ми зустрічалися з вами минулий раз,
Et puis aussi, l'endroit où on s'est vu la dernière fois est aujourd'hui en plein sur la ligne de front, voire même occupé par les Russes. Le rythme d'avancée des Russes s'accélère et donc les soldats, comme moi, doivent accepter des responsabilités plus importantes pour les combattre.
Donc là, maintenant, vous êtes à Kherson, qui est un terrain de guerre particulier, un front particulier, parce que c'est une grande ville qui se trouve sur le bord du fleuve Dnipro. Et de l'autre côté, il y a tout un territoire d'îles où se déroulent les combats. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez, vous, avec votre drone, quand vous survolez ce front-là?
Avec le drone, je survole des endroits que je connais bien. Par exemple, la dune d'Oleshki, c'est là que j'ai fait mes classes quand j'ai rejoint l'infanterie de marine en 2020. C'est vraiment dur de se dire que ce territoire n'est plus à nous. Mon cerveau ne veut pas accepter cette idée. Je continue à me dire que ce n'est pas fini et qu'on va le reconquérir.
Ça fait 4 ans maintenant que cette guerre dure. Comment est-ce que vous mesurez, vous, ce temps qui passe dans la guerre?
C'est dur, mais à vrai dire, je m'y suis habituée. Je sais bien que depuis longtemps, aucune société en Europe et même dans le monde entier n'a connu de guerre aussi longue. Mais la psychologie humaine peut s'habituer aux choses les plus horribles. Même après tant d'années de guerre, je me suis moi-même habituée à cette vérité. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, on s'habitue.
Et en 4 ans, la vie continue malgré tout. La guerre n'arrête pas la vie. Vous avez appris des nouvelles fonctions dans l'armée avec les drones. Vous me disiez que vous avez commencé à apprendre le français aussi ces dernières années.
Oui. J'apprends le français depuis 3 années et je suis très heureuse que je peux parler avec vous. Les livres, il apprend la langue, le travail intellectuel est très bon pour le soldat. C'est vrai.
Pour moi, l'écriture de poésie ou de prose, c'est un moyen de rester vivante intellectuellement dans la réalité du front. J'espère qu'à la fin de cette guerre, je vais revenir complètement à la littérature et à l'université. Je voudrais enseigner à l'université et ça m'aide beaucoup à ne pas perdre de vue mon avenir.
C'est important de continuer à faire des projets. Même si la guerre dure, il y a toujours l'idée de l'après ?
N'est pas toujours. L'idée de l'après...
Très souvent, c'est plus simple pour les soldats de ne pas faire de projet d'avenir pour après la guerre. Ça les démoralise. Ils préfèrent penser au présent, ici et maintenant, pour s'épargner la douleur de tout perdre. Mais pour moi, c'est plus facile de suivre la voie de ce que j'aime. Je ne m'imagine pas sans écriture, sans littérature. Alors je les garde en parallèle à ma vie de soldat.
Est-ce que ce que vous pensez et écrivez de la guerre a changé?
Oui, je pense que mon письмо стало, напевне,
Oui, mon écriture est plus sereine, plus réfléchie. On a déjà des années de guerre pendant lesquelles j'ai connu tellement de choses que je commence à m'y perdre. J'ai vécu tellement de choses que les humains ne devraient pas vivre. À présent, j'arrive plus facilement à généraliser cette expérience plutôt que de me perdre dans les détails. Nous avons tous vu tellement de morts, de blessés, de pertes que c'est devenu une routine pour nous qui ne suscite plus d'émotions. C'est horrible, mais c'est un fait.
Est-ce qu'à un moment donné, on se dit non, là, il faut que ça s'arrête, c'est trop?
La fin de la guerre, elle ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui l'avons commencée ou qui avons le plus de ressources pour la continuer. Nous voudrions tous qu'elle s'arrête, mais on n'y peut rien. Tout dépend de si la Russie s'arrête ou non. Ils nous attaquent, nous on se défend. Donc on n'a pas d'autre choix que de tenir, se défendre et accepter ce qui nous arrive, comme j'essaye de le faire.
Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів.
Rejoindre la ville de Kherson, tout près du front matérialisé par le fleuve Dnipro, ce n'est jamais simple. Au départ, on doit y arriver en milieu de matinée pour rencontrer des jeunes de la ville réunis à la bibliothèque centrale. Mais la route principale est fermée. En ce matin d'hiver, le gel a fait tomber les filets déployés sur des kilomètres pour se protéger des attaques de drones russes. Il faut faire un long détour par une route défoncée et quand on arrive enfin près de la bibliothèque, il est trop tard. Tous les enfants sont rentrés chez eux après un bombardement russe. Enfin, tous, sauf Véronica, la fille de la bibliothécaire.
On était en train de lire un livre, on prenait le thé. Et soudain, les frappes ont commencé. On a eu tous peur et on s'est mis à l'abri. On a essayé de se calmer, ça a pris un peu de temps. Et puis on a continué à lire des poésies dans le bunker de la bibliothèque, jusqu'à ce que les frappes cessent.
Toi, Véronica, tu as donc 15 ans. Tu as toujours vécu ici à Kherson depuis les 4 dernières années. Tu es toujours restée ici chez toi?
Oui, j'aime bien vivre ici. Avant, je me souviens qu'on faisait la fête, on allait tout le temps à des concerts le soir, on pouvait se promener tranquille. Le supermarché était ouvert tout le temps, on pouvait acheter des glaces. Bref, on sortait quand on voulait. Maintenant, on est privé de tout ça. Il y a le couvre-feu. Les frappes, les drones. Aujourd'hui, c'est comme ça, je reste 24 heures sur 24, soit dans ma chambre, soit à la salle de bain quand il faut se mettre à l'abri, ou dans le bunker qui est au travail de ma mère.
Moi, j'ai un souvenir de Kherson, où il y a le fleuve, le Dnipro, c'est quelque chose de très important pour la ville. Le printemps, l'été, c'est des endroits très agréables. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de profiter justement de la ville, de tout ce qu'elle peut offrir normalement à des jeunes qui y vivent?
Non. Il faudrait être fou pour aller là-bas. Maintenant, il y a des mines et des dangers partout où on met les pieds. Tu te balades et hop, un drone te fonce dessus. Tu regardes de l'autre côté et sous une feuille, oh, une mine antipersonnelle avec son joli fil détonateur. Et voilà.
Est-ce que tu as beaucoup d'amis de ton âge ici? Il y en a qui sont partis ou est-ce que les amis sont restés dans la ville?
Je n'ai plus qu'une seule amie ici, Sofia. On se balade des fois ensemble, mais pas souvent, à cause des bombardements et des drones. J'ai aussi une amie que je connais par Internet et d'autres qui sont partis d'Ukraine. Mais avec eux, c'est difficile de maintenir le contact. Ils ont une autre vie que la mienne et ils n'ont plus le temps pour ça.
Là, tout à l'heure, sur ton téléphone, tu as envoyé un petit message pour dire que tu étais en interview avec des journalistes français. C'est à qui que tu l'as envoyé ce message alors?
C'est ma podruga zi Lvova, zvata Katarina.
C'est ma copine de Lviv, elle s'appelle Katarina. Je l'ai rencontrée via un jeu en ligne. Il y a une fille qui m'a écrit: tu veux rejoindre notre équipe? Allez, viens! C'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est le jeu Pony Town. Tu peux créer ton personnage, tu te balades à Pony avec d'autres joueurs, tu discutes.
C'est surtout pour faire connaissance. Tu peux inventer des paysages, des
poneys.
Tu es à l'âge où on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait faire dans la vie, comment on se projette dans l'avenir. J'imagine que c'est compliqué quand on est dans une situation, dans un contexte comme celui de la guerre.
Oui, bien sûr. Je voudrais faire des études de théâtre ou d'autres métiers créatifs, artistiques. Mais il faut choisir la bonne formation, ou bien rester ici et suivre une formation à distance, ou bien aller étudier dans une autre région plus sûre, où on peut suivre de vrais cours en présentiel. En vrai, je pense que la guerre ne va pas finir bientôt, mais ça n'empêche pas d'en rêver.
Si tu devais expliquer ça à un enfant de France, par exemple, qui a ton âge, comment tu lui expliquerais la situation de ton pays ?
C'est la peur permanente. Même chez toi, tu n'es pas en sécurité, parce que les frappes peuvent arriver n'importe quand. Il n'y a pas un endroit en Ukraine où on est vraiment en sécurité. Partout, c'est dangereux. Voilà.
Je suis assez impressionné, je pense que je ne suis pas le seul, de voir toute l'énergie que tu as, et quand tu réponds, tu as beaucoup de vie en toi, et peut-être de la colère, et c'est contre qui cette colère ?
Je suis en colère contre la Russie. Je ressens même du dégoût, de l'hostilité. Il me prive de la possibilité de suivre les études normalement, d'avoir une vie sociale, des perspectives, de vivre en fait.
Polina, c'est une amie originaire de Crimée qui nous a conseillé de la rencontrer. On s'est donné rendez-vous dans le centre de Kiev, dans un café où l'on sert des plats typiques de cette péninsule ukrainienne, annexée par les Russes depuis non pas 4, mais bien 12 ans, depuis 2014. On a face à nous une jeune femme habillée tout en noir, même couleur que ses cheveux courts. Polina est souriante, à l'aise. Elle a mis 3 mois, a dû traverser 3 pays, dont le lointain Kazakhstan, pour quitter sa Crimée natale et rejoindre l'Ukraine libre.
Je m'appelle Polina, j'ai 20 ans. Je suis née à Sébastopol. À part ça, en ce moment, j'envisage de m'engager dans l'armée ukrainienne et d'aller défendre notre pays de manière très concrète.
Alors Polina, tu avais 8 ans quand les Russes ont annexé et occupé la Crimée, c'est ça ?
Oui, j'avais 8 ans, j'ai vu l'occupation commencer quand j'étais petite. J'ai vu tout ça de mes propres yeux. Je me souviens de la révolution de Maïdan, comment la Russie en a profité, comment la propagande russe a commencé à s'imposer, comment ils ont commencé à interdire tout ce qui était lié à l'Ukraine. Je me souviens des changements dans les programmes scolaires, l'hymne russe qu'on nous a obligés de chanter, les drapeaux qui ont été changés, les cultures ukrainiennes, celles des Tatars de Crimée qui ont été interdites, comme tout ce qui n'était pas russe.
C'est quoi en gros l'histoire de ta famille et le positionnement un peu politique dans tout ça ?
Franchement, avant 2014, je pensais que ma famille était pro-ukrainienne. Mon père était militaire et je pensais toujours qu'il allait défendre l'Ukraine. Mais j'ai vite compris qu'ils avaient retourné leur veste pour soutenir la Russie. Et tout ce que j'ai pu leur dire, les gens assassinés ou torturés, rien ne les a convaincus. Donc j'en veux beaucoup à ma famille. Ils sont contre moi, contre ma culture, ils soutiennent l'assassinat de mon peuple, et donc de fait, mon assassinat.
Dans ton entourage, il y a des gens qui ont pris des risques et qui ont été victimes de répression. Est-ce que toi, tu as vécu aussi des choses dont tu peux témoigner ?
Oui, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai récolté des informations et je les ai transmises aux renseignements ukrainiens, mais sans prendre assez de précautions. Une fois, j'ai créé un groupe sur Internet où les gens pouvaient envoyer des photos de sites militaires russes. C'était une erreur de jeunesse. Je n'étais pas assez prudente. Et j'ai reçu un message disant que le FSB allait venir m'interroger. Ils ne sont jamais venus, mais j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai un ami qui a passé un mois en détention provisoire, accusé de trahison d'État pour des activités auxquelles j'avais aussi participé.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il a fallu décider de partir, même si ça allait être compliqué, même si c'était dangereux? Pourquoi décider ça à ce moment-là?
Je voulais partir depuis longtemps, mais dans ma tête, il y avait toujours l'idée que la Crimée était ma terre natale et que j'allais lutter pour ma terre sur ma terre. Mais j'ai bien compris que les informations qu'on envoyait ne suffisaient pas, qu'il fallait rejoindre certains mouvements de résistance plus sérieux. J'ai essayé de les contacter, mais je n'ai pas réussi. Donc je me suis dit qu'il fallait prendre mes responsabilités et partir, m'engager dans l'armée ukrainienne. Comme ça, je pourrais accélérer la libération de ma terre et rentrer à la maison.
Et aujourd'hui, du coup, à Kiev, qu'est-ce que tu fais alors ?
Là, maintenant, j'attends mes papiers ukrainiens. Je vais bientôt avoir ma carte d'identité. En attendant, je suis au centre d'instruction militaire. Je me forme sur les drones. Je m'entraîne pour qu'en avril, je puisse vraiment m'engager dans l'armée. Il faut encore que j'apprenne des choses qui me manquent. Et au printemps, je pourrai suivre la formation de base, comme tous les soldats.
On entend des gens qui disent là, ça fait 4 ans, ça fait 12 ans, on ne pourra pas récupérer ces territoires, ou en tout cas pas tout de suite, et il faut arrêter les combats avant tout, et après on verra ce qu'on peut faire pour eux. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu entends ça ?
J'ai déjà passé tellement de temps sous occupation russe. Les gens qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Quand tu as peur de t'exprimer, quand on t'enlève ce qui t'appartient, ton identité, ta culture. On ne peut pas abandonner les gens qui subissent ça dans les territoires occupés. Et puis, laisser la Russie gagner, ce serait revenir à ce cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. On se défend, on a des alliés à un moment donné, puis ils nous lâchent. Et on reste face à face avec la Russie qui veut à tout prix détruire notre culture, nous exterminer. Et exterminer d'autres peuples après nous. Si le monde permet ça, alors une nouvelle fois, il permettra à ce régime barbare de perdurer, de se renforcer et d'accomplir d'autres crimes abominables.
S'il y a quelque chose que j'essaye de faire à chaque fois que je viens à Kiev, c'est de rendre visite à mon amie Irina Slavinska. Je l'ai connue il y a un peu plus de 15 ans quand elle était jeune journaliste ukrainienne et moi, jeune journaliste français qui travaillait en Ukraine. On ne s'est pas perdu de vue depuis, les liens sont resserrés bien sûr depuis le début de la guerre aussi, parce que Irina, en plus d'être une voix francophone de l'Ukraine depuis le début de la guerre et une voix qu'on a entendue sur France Culture, par ses chroniques, par les interviews qu'elle a pu faire, elle a aussi... un lien un peu particulier qui s'est développé avec tous les événements ces dernières années, un lien particulier avec le temps qui passe aussi dans la guerre. Elle va nous expliquer tout ça. J'ai de la chance que l'ascenseur fonctionne aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, parce qu'Irina habite au 15e étage de cette barre d'immeubles dans la banlieue ouest de Kiev.
Salut.
Salut, ça va ?
Ça va bien.
Ça c'est quelle heure jusqu'ici ?
Bon Irina, je suis arrivé là et on a commencé à chuchoter, on fait pas trop de bruit. Pourquoi est-ce qu'on parle pas trop fort dans la cuisine ?
Nous nous trouvons dans ma cuisine, dans notre appart. Et dans une pièce à côté, il y a mon fils qui dort, il fait sa sieste. Donc nous, on a eu la chance de prendre notre déjeuner avec un petit borscht bien chaud, parce qu'on a eu la chance d'avoir de l'électricité cet après-midi. Ça tombe très bien. Les coupures d'électricité sans enfants, on les a connues l'hiver 22-23, et avec un petit enfant, c'est quelque chose de très différent.
C'est la quatrième année. Tu ressens une difficulté particulière avec cette répétition comme ça des hivers?
C'est surtout le sentiment d'en avoir marre de cette attaque russe. Bon, c'est l'hiver qui est très froid. Mais en même temps, c'est l'hiver où tout le système énergétique ukrainien a été attaqué d'une manière absolument consciente. Et quand il y a les quartiers entiers qui souffrent sans chauffage, par exemple, c'est une manière absolument consciente de transformer la vie des gens ordinaires en enfer.
Quand on a eu un enfant, on sait que c'est déjà un travail énorme. Mais quand on rajoute par-dessus ça la réalité de coupure, de pénurie, qui est celle de la guerre, comment on s'en sort?
On s'en sort par le talent de management. Si on a 2 heures d'électricité, par exemple, tu dois faire toujours ton choix. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 heures? Est-ce que tu prends l'ascenseur et la poussette et tu sors avec un petit enfant, ou tu passes ce temps pour travailler, si un enfant te laisse cet espace, ou peut-être tu prépares à manger? Ou peut-être tu fais tout ce qui concerne la machine à laver, la vaisselle, etc. Il y a pas mal d'équipements à faire tourner déjà, ce qui prend du temps. Et je pense qu'il n'y a pas de bon choix. Parce que quoi que je choisisse, il y a toujours les choses qui restent dans cet état de ne pas faire.
Qu'est-ce que c'est ça?
Je pense que pendant notre conversation, on a eu une coupure d'électricité qu'on n'a pas remarquée. Et quand il y a l'électricité qui réapparaît, il y a notre frigo qui fait ce beau bruit. Et Les, il sait le reproduire. Pip! Donc il comprend très bien quand est-ce que l'électricité revienne.
D'accord.
C'est très triste, mais un des premiers mots, un des premiers sons que Les a commencé à prononcer, à reproduire d'une manière assez persistante, c'est « Viou, viou », le son de la sirène. Donc, quand il y a le son de l'alerte qu'il entend, il dit « Viou, viou », c'est moi qui dis « Oui, ouais, c'est une alerte aérienne qui commence. » Je sais qu'il y a des familles qui cachent la sirène et les alertes de leurs enfants. Nous, on explique que c'est de l'explosion. Donc, il y a un autre mot de Les, « Babach », qui imite l'explosion à travers la fenêtre qu'il peut entendre. Il est impossible d'expliquer à un enfant de cet âge qu'il y a la guerre, les forces de la défense anti-aérienne, les missiles, etc. Mais en gros, on peut au moins essayer d'expliquer ce fond sonore qui l'entoure.
Une des conséquences aussi qu'on ressent quand on vient ici, qu'il y a des alertes, c'est la privation de sommeil. Enfin, c'est aussi une façon de rendre fous les Ukrainiens et de les user aussi physiquement et moralement. Pour un enfant comme ça, il est réveillé la nuit par les alertes, vous devez l'emmener, le mettre à l'abri, comment ça se passe?
Ça se passe différemment chaque nuit. Il faut faire ce choix. Est-ce que tu réveilles un enfant au milieu de la nuit, pour le déplacer, pour le mettre dans son lit portable, dans le dressing, ou tu le laisses dormir? Est-ce que tu veux avoir un enfant qui ne dort pas dès 3 heures du mat? Ou peut-être tu le laisses dormir un peu plus long?
Quand on a un enfant, il y a des moments de fatigue, d'abattement, Où est-ce que tu trouves le soutien? Où est-ce que tu arrives à toujours retrouver l'énergie et la force?
Je sais pas, mais je pense que peut-être qu'il y a 3 sources qui s'entraident. Quand je suis fatiguée au travail, c'est la famille qui m'aide. Quand je suis fatiguée de tout ce qui concerne la vie quotidienne, familiale, c'est le travail qui m'aide. Et la troisième source, c'est le cercle des amis les plus proches. Et pour moi, personnellement, peut-être c'est aussi l'art qui m'aide, parce que moi, j'écris des livres, et la possibilité d'exprimer un peu l'expérience vécue à travers des livres d'essai, par exemple, que j'écris, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi.
Qu'est-ce que tu veux en tirer, justement? Qu'est-ce que tu veux partager avec les lectrices et les lecteurs de cette expérience personnelle?
J'aimerais bien de parler surtout des choses culturelles, des choses historiques, telles comme la discrimination des femmes, le contexte féminin en Ukraine, illustrer, si je peux le dire, par l'expérience plus personnelle que je vis maintenant comme mère en Ukraine, parce que ce sont surtout les mères qui portent ce poids de conserver la culture ukrainienne dans la famille. Et moi, je pense que c'est le poids symbolique, mais qui ne soit pas symbolique du tout, parce que ça demande beaucoup d'heures de travail, surtout pour la femme qui se retrouve à l'étranger toute seule avec les enfants, avec la possibilité de suivre les cours de langue étrangère, avec la possibilité de faire reconnaître son diplôme des études supérieures, de se trouver l'emploi, etc. Et moi, je vois, à travers les exemples des femmes que je connaisse, que c'est très dur à porter.
Ça pose aussi la question de l'après. Le fait d'avoir un enfant, ça donne du concret, de la chair à l'idée justement de l'avenir, de ce qu'il y aura après.
Sur mon portable, j'ai une image, et c'est la mer noire sur la presqu'île de Kinburn, dans les régions de Kherson, qui est occupée par les Russes maintenant. Nous y avons passé plusieurs vacances d'été, assez sauvages, très beaux. Mais ce paysage particulier de la presqu'île de Kinburn, c'est quelque chose que je garde comme un des projets d'avenir pour nous et pour l'Est. C'est une des choses que les Russes essaient de nous faire oublier que l'avenir existe. Moi, je pense que cette cadence de l'enfance, les changements d'enfant à travers chaque jour qu'ils vivent, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à tenir le coup et aussi à penser de l'avenir, parce qu'on regarde l'Est à grandir. Et voilà, c'est l'avenir qui est présent juste devant nos yeux.
Voilà, centre de l'histoire urbaine de l'Europe de l'Est et Europe centrale. C'est là que nous attend Natalia Otrichenko, c'est une sociologue ukrainienne. Et depuis 4 ans, elle rencontre des personnes déplacées, des Ukrainiens, des Ukrainiennes pris dans la guerre. Et son travail, et c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment sur la perception du temps dans la guerre. Et voilà, elle a tout un travail là-dessus, on va aller voir un peu ce qu'elle a à nous dire sur notre sujet. Natalia.
Hello.
Hello.
How are you?
No, you're fine. Welcome.
We are lucky to have electricity.
Nous avons la chance d'avoir de l'électricité. C'est un son très important, vous savez, ce thé chaud.
Il y a un article que vous avez publié qui est titré « Le temps que les Russes nous ont volé, nous volent avec cette guerre ». On ne parle pas seulement de destruction, de mort, il y a aussi toute cette question de l'avenir, des opportunités, de futur qui n'arrivent pas, de la vie quotidienne qui est entravée. C'est quelque chose de très fort dans votre travail.
La
perception du temps est une des grilles de lecture pour analyser l'expérience de la guerre dans la société ukrainienne. Il faut imaginer la vie comme une ligne tendue entre la naissance et la mort. La guerre vient bousculer cette ligne parce que la mort peut arriver n'importe quand, n'importe où. Elle peut tomber du ciel avec cette terreur aérienne que fait régner Poutine. Elle peut venir dans des combats sur le front. Cette immédiateté de la mort est une chose très forte qui vous oblige à reconsidérer la ligne de temps qui vous est donnée.
And of course, it is about stolen future.
Et bien sûr, il s'agit aussi de possibilités d'avenir volées par la guerre. Celles et ceux qui ont été tués, ce sont des vies possibles qui ne se réaliseront pas. Ce sont des histoires qu'on n'écrira pas, des œuvres qui ne seront pas accomplies, des amours qui ne seront jamais vécues. Oui, cette multiplicité des futurs n'est plus accessible dans la guerre. On pourrait parler de défuturisation, la réduction du nombre de futurs possibles. Mais c'est aussi une rupture avec le passé. Parce que quand votre maison est détruite, ce ne sont pas que des destructions matérielles, c'est aussi la destruction des années que vous avez investies pour créer cet endroit unique à vous. Si vous avez perdu votre travail parce que vous avez dû fuir votre maison et tout ce qui faisait votre vie, vous perdez aussi toutes ces années que vous avez consacrées à votre éducation, à apprendre un métier, à atteindre un bon poste. Donc, la guerre, ce sont des passés et des futurs
perdu. Et qu'est-ce qui nous reste ? Le présent, un présent lui aussi très précaire.
J'ai l'impression qu'avec la durée de la guerre qui se prolonge, la perception du temps, de l'avenir, de ce qui va se passer après, a beaucoup évolué. Comment est-ce qu'on s'adapte à cette longue durée de la guerre et qu'est-ce qu'elle fait justement en mentalité des individus et puis de la société ukrainienne qui malgré tout tient le coup.
Survival is a victory.
Notre survie, c'est déjà notre victoire.
Because this war is so much about destroying the
whole idea that Parce que cette guerre est menée pour nous empêcher d'exister en tant qu'État et que peuple ukrainien.
So if we manage to survive,
donc si on arrive à survivre comme un projet, un collectif, ce sera notre victoire.
So the way how I frame it,
c'est comme ça que je
now,
réfléchis à tout ça aujourd'hui.
Yeah, you're right. There was
Mais
so
c'est vrai.
Much hope. In 2023,
il y avait tellement d'espoir en 2023 quand l'armée ukrainienne a lancé sa contre-offensive. Les gens ont voulu y croire vraiment fort. Il y a eu un contre-coup émotionnel très fort. Mon hypothèse, c'est qu'en 2022 et 2023, les Ukrainiens envisageaient le futur comme un retour à la situation d'avant l'invasion russe. C'était donc des représentations du futur ancrées dans le passé. On pensait que la rupture créée par la guerre pourrait disparaître. Mais à présent, plus on s'enfonce durablement dans cette guerre à grande échelle, plus on fait face à la destruction de tout et plus on se rend compte qu'on ne pourra pas revenir à ce qui existait avant la guerre. Et donc, il faut qu'on imagine un autre futur, maintenant, au cœur même de la rupture. Un futur qui ne soit pas connecté à notre vision du passé, mais enraciné dans autre chose. Et moi, c'est ma question. Avec quelles ressources est-ce qu'on peut mener ce travail de création d'un autre futur, alors qu'on est vraiment tous en mode survie ? Je me débat avec cette idée d'imaginer d'autres futurs possibles. Un autre projet social-démocratique, pas seulement autour de cette idée d'État-providence, mais quelque chose de plus radical, et pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour d'autres situations, d'autres sociétés. Je crois qu'il est essentiel de rester optimiste, même malgré toutes les difficultés autour de nous. Et il est encore plus essentiel de rester connecté aux autres, parce que l'essence de la guerre, c'est de détruire les liens qui unissent les gens. Quand vous êtes dans une situation de traumatisme, c'est très difficile d'être avec les autres, parce que votre douleur vous isole. Donc, rester connecté, juste être ouvert aux autres, c'est vraiment quelque chose, selon moi, qui nous permet de maintenir ce tissu social déchiré qui nous réunit. Et par de petits actes de bonté, je pense qu'il est possible de rester un être humain, même face à tant de pertes et de dangers.
En parlant de recréer des rituels, qu'est-ce que vous allez faire le 24 février pour les 4 ans donc, de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine?
Je vais probablement allumer une bougie
and I will do my job.
Et je ferai mon travail.
As I'm still
Comme j'ai toujours la chance de pouvoir exercer mon métier de chercheuse, je me sens obligée de le faire du mieux que je peux, parce que tellement de gens n'ont pas cette chance. Donc oui, ce jour-là, je vais commémorer et travailler.
Yeah, I will commemorate and I will work.
Guerre en Ukraine, l'épreuve du temps, un reportage de Camille Magnard, Laurent Macchietti et Yachar Fazilov avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invitée de ce grand reportage, la sociologue Yulia Shukan, directrice d'études à l'EHESS, chercheuse au CERSEC. Vous êtes en ce moment à Kiev. Est-ce que les témoignages que vous venez d'entendre font écho à ce que vous disent les Ukrainiennes et les Ukrainiens avec lesquels vous échangez ?
Oui, tout à fait. Ça fait énormément écho d'abord du point de vue du quotidien. Ici même à Kiev ou encore à Lviv où j'ai été récemment. À la fois ce quotidien extrêmement marqué par la précarité et dans le même temps une volonté de résister, de durer, de s'adapter et de poursuivre de vivre tout simplement au temps présent. Et je pense que les points forts de ce reportage, ces témoignages que nous venons d'entendre, c'est précisément ce lien en temps. J'ai l'impression que dans tous les reportages, cette idée du temps, le temps présent et à quel point Il pèse dans la vie des Ukrainiens et on l'entend beaucoup dans ces témoignages. Le temps présent qui devient long, avec un hiver extrêmement dur cette fois-ci, mais dans le même temps, voilà, le temps qui dessine un certain nombre de perspectives. Et on entend aussi des récits de résistance et des attentes d'avenir malgré ce présentisme de la guerre.
Alors le présentisme, c'est ça la marque de la guerre, ne pas savoir de quoi demain sera fait ?
On l'entend très bien dans le tout dernier témoignage de la sociologue Natalia Otrichinko, effectivement, qui nous dit que la guerre efface le passé. Si on pense notamment aux déplacés internes, on pense tout simplement aux habitants, aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens de toutes les villes qui ont perdu des pans entiers de leur passé, leur vie insouciante, les joies d'avant la guerre. Et aujourd'hui, ce quotidien, ce présent, il est rempli de pertes, de douleurs, de dureté finalement de la vie sous bombardement. Et les Ukrainiens et les Ukrainiennes nous envoient quand même ce message de résistance, mais qui, à mon avis, qu'il faut prendre avec précaution au sens où, certes, l'Ukraine tient pendant les 4 ans de cette guerre à grande invasion. Et pour beaucoup de personnes, c'est quand même une guerre qui rentre dans sa 13e année aussi. Il faut ne pas oublier qu'elle avait commencé en 2014, mais que dans le même temps aussi, malgré cette normalisation et routinisation qui apparaît dans les discours et qui ressort très bien dans les reportages aussi, on doit s'habituer. Sinon, on ne peut pas tenir si on ne s'habitue pas, si on ne réaménage pas son quotidien. Il ne faut pas oublier à quel point l'Ukraine vit dans des conditions totalement anormales et que l'Ukraine connaît des fragilités aussi.
C'est vrai que c'est troublant hein, quand on entend la maman de ce tout petit enfant. Elle dit qu'une des premières choses qu'il a reproduit, c'est le son des alertes. C'est quand même assez sidérant.
Et c'est pourtant le quotidien de tout le monde en Ukraine, qu'on soit à Kiev ou encore à Lviv. Et les gens se sont habitués, se sont adaptés, aménagés leur intérieur, savent où se trouve cet espace entre les deux murs, qui est un espace considéré comme un espace de sécurité. Et dans le même temps, voilà, on est à Kiev, on est dans une capitale européenne, et ce sont des conditions extrêmement anormales.
Mais alors, le temps de la guerre se prolonge, mais au cours de ces 4 années, il s'est passé plein de choses, avec une contre-offensive qui a suscité beaucoup d'espoir et qui ont ensuite été déçus. Là, il y a encore des évolutions sur le front. Et puis, en parallèle, évidemment, il y a l'équation internationale, les alliés sur lesquels l'Ukraine peut plus ou moins compter, les négociations sous la pression des États-Unis. Bref, ça n'est pas un temps monolithique. Est-ce que la population suit tout ça de près, réagit à ces hauts et ces bas successifs, ou est-ce qu'elle fait plutôt le dos rond pour se concentrer sur le quotidien?
Je pense qu'il y a plusieurs temporalités du point de vue des attentes. Et bien sûr, dans ce présentisme de la guerre, il n'est pas possible de vivre sans espoir. On ne peut pas totalement l'écraser. Et donc, régulièrement, il y a des pics d'espoir, en quelque sorte. L'espoir, par exemple, était relié, certes, à cette contre-offensive qui n'avait pas apporté ses fruits. L'espoir était lié aussi aux élections américaines, à l'élection du président Trump, qui était considéré par beaucoup en Ukraine comme un gage de sécurité, d'engagement américain du côté des Ukrainiens et peut-être comme un gage de changement favorable à l'Ukraine. Et pourtant, la déception est grande vu d'aujourd'hui et dans le cadre de ces négociations dans lesquelles personne ne croit en Ukraine. Je pense que personne n'y croit côté russe non plus, mais tout le monde continue à jouer ce jeu-là. Donc on voit régulièrement des espoirs remonter. Et dans le même temps, il y a énormément de déceptions. Et aujourd'hui, par exemple, l'espoir, c'est le printemps. Le printemps comme symbole un peu de renouvellement, de la fin de l'hiver, de cette sortie d'un hiver extrêmement dur, avec les frappes sur les infrastructures électriques. Et donc, bien évidemment, voilà, toutes les conséquences pour les populations. Tout le monde attend le 1er mars, qui est le printemps calendaire en Ukraine. Et c'est symbole de l'espoir, de journées plus longues, de nuits plus courtes, et donc de possibilités de tenir un plus longtemps avec la lumière du jour.
Camille Magnard.
Oui, parce qu'on entend dans le reportage plusieurs personnes qui nous ont dit on n'a pas le choix que de tenir, que d'attendre justement et de continuer à penser que ça va s'arrêter un jour. Il y a un grand décalage. Vous parliez des négociations auxquelles personne ne croit. On a l'impression que chez nous, on suit au jour le jour ces négociations, la pression qui est mise sur l'Ukraine pour qu'elle accepte cette cessation des combats qui passeraient par le fait d'abandonner les territoires et les populations qui sont occupées, voire même plus encore, certains qui ne sont pas encore occupés par les Russes. Les Ukrainiens nous disent, en fait, il faut arrêter de dire qu'on a le choix et qu'on pourrait arrêter ça. Le choix, on ne l'a pas. Ce n'est pas nous qui avons la clé de la fin de cette guerre.
Tout à fait, c'est ce que j'entends moi de mon côté également. Cette absence de choix, on ne choisit pas son voisin. Il se trouve que l'Ukraine est voisine de la Russie et que la Russie continue à dénier l'existence même de l'Ukraine dans toutes ses dimensions, à la fois culturelles, linguistiques et autres. Et ce qui fait qu'on n'a pas le choix, et c'est le sentiment dominant en Ukraine. Et donc la nécessité de tenir, elle est présente. Elle est présente au niveau des pratiques. Et les reportages nous décrivent précisément comment cette adaptation s'est faite au bout de 4 ans de la guerre, mais il est présent aussi dans les discours tels que c'est articulé par un certain nombre d'intellectuels, par exemple, qui insistent sur cette nécessité de vivre dans la guerre, de s'habituer à vivre dans la guerre, puisque peut-être il y aura une pause à un moment ou à un autre, qu'il y aura des négociations et qu'elles porteront fruit, mais dans le même temps, le voisin sera toujours là, et tant que l'impérialisme russe est représenté au pouvoir et trouve ses traductions dans un certain nombre de politiques, et notamment cette guerre que la Russie mène à l'Ukraine, l'Ukraine doit tenir, doit s'habituer, doit déployer un certain nombre de politiques précisément pour se renforcer et pour savoir se défendre.
Mais alors vivre dans la guerre, quand on voit ces jeunes qui grandissent enfermés dans leur chambre, comment est-ce que la jeunesse tient le coup ?
Et dans le même temps, il y a des espaces de socialisation et le reportage nous le montre, cette bibliothèque à Kherson, où il y a un certain nombre d'événements culturels et qui est un vrai lieu de sociabilité pendant la guerre, puisqu'il y a des écrivains, des poètes qui viennent sur place, qui partagent leurs œuvres. Il y a des échanges qui sont organisés, il y a des lieux où les jeunes peuvent se réunir, se rassembler, certainement pas à Kherson, mais dans d'autres villes comme à Kharkiv ou à Zaporijia, où l'adaptation a pris la forme de construction des écoles souterraines, où les jeunes peuvent quand même se retrouver dans les cours d'immeubles. La jeunesse continue à communiquer dans les rues. On croise beaucoup de jeunes dans un certain nombre de lieux, dans les différentes villes où ils se retrouvent et échangent. Et donc, en fait, c'est aussi cette forme d'habituation dans la guerre où on peut trouver quand même des joies, on peut organiser des sorties et continuer à tenir.
Et Véronica s'est d'ailleurs fait une amie à distance. C'est l'occasion de souligner le rôle prépondérant des réseaux sociaux en Ukraine aujourd'hui.
Bien sûr, ça permet également de tenir. Il évoque notamment l'absence d'amis. Beaucoup de ses amis qui ont quitté Kherson, qui, il faut le rappeler, se trouvent sous bombardement quasiment quotidien. Et dans le même temps, les réseaux sociaux permettent d'établir ce lien, de continuer à échanger et de rester connecté finalement, puisque la connexion Internet, c'est aussi ce qui permet dans ces lieux très enclavés et vivant dans la douleur et la souffrance, de rester connecté, d'échanger, d'avoir des nouvelles et de maintenir le lien aussi, le lien social qui compte beaucoup dans cette guerre.
Est-ce que ça permet aussi de maintenir le lien avec ceux qui ont quitté l'Ukraine ou est-ce que ces liens-là sont quand même plus distanciés ?
J'ai l'impression que le lien tient, et le lien tient à la fois parce qu'on a dit il y a la bonne connexion Internet dans le pays, même s'il peut y avoir des problèmes de connexion liés à l'électricité, mais la connexion est aussi maintenue, notamment à travers la circulation des personnes, principalement des femmes avec enfants, qui, si elles avaient choisi de quitter l'Ukraine, donc au début de l'invasion, ou encore aujourd'hui, suite au bombardement, elles continuent à circuler entre les pays de l'Union européenne et l'Ukraine et entretenir le lien, en sachant que leurs maris sont interdits donc de sortie, qui restent dans le pays, ou encore leurs parents souvent souhaitent rester dans les lieux où ils habitent, ne souhaitent pas quitter l'Ukraine. Et donc cette circulation qui est tout à fait possible, même si extrêmement difficile, ça prend 24 heures de venir de Paris, par exemple, jusqu'à Kiev. Mais cette circulation, elle est intense et elle permet de maintenir les familles.
Camille ?
Et Yulia Shukhan, vous parlez de maintenir le lien. C'est ce que dit Natalia Otrichenko, la sociologue qu'on entend à la fin du reportage aussi, sur l'importance du soin aux autres, même quand on est en mode survie dans la guerre. C'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez beaucoup, notamment autour du système de santé ukrainien qui se maintient et de l'attention apportée aux blessés de guerre en particulier.
C'est un soin qui se déploie à plusieurs échelles. Effectivement, il y a le système de santé qui est sous tension depuis le début de l'invasion, avec un grand nombre de blessés à soigner, mais c'est aussi un soin qui se déploie à aussi une micro-échelle, à la fois du point de vue des associations qui prennent en charge les blessés de guerre ou encore qui prennent en charge les déplacés internes, mais aussi à une échelle très interpersonnelle, des liens de solidarité qui se créent. Et donc des échanges qui circulent, des échanges d'informations, par exemple, entre les blessés avec lesquels je communique, et des appuis, donc toute une série d'appuis, des services publics et jusqu'aux individus qui permettent également de tenir à ces blessés de guerre, avec tout un défi en fait, qui se pose du point de vue de la, reconfiguration de ce système de soins. Aujourd'hui, l'Ukraine à la fois fait des choix dans l'urgence absolue. Il faut soigner, il faut prendre en charge ces personnes blessées, civiles ou militaires. Et dans le même temps, il y a des choix de politique publique qui sont faits en ce moment-là, du point de vue de la construction de ce système de soins, de la place que ces blessés de guerre vont y occuper. Et on sait que, vu l'ampleur et l'intensité des combats et toutes les conséquences de cette guerre, finalement, le système de soins va devoir tenir. Et donc les choix d'aujourd'hui, nécessairement, vont impacter ce futur, et ça nous permet de faire ce lien entre le présent et le futur aussi dans la guerre.
À propos de ces blessés, de ces personnes amputées, on voit que l'Ukraine est marquée dans sa chair. Est-ce qu'on s'habitue aussi à voir ces corps abîmés ?
Je pense qu'il y a tout un processus de socialisation à l'altérité qui se passe à une vitesse grand V, effectivement, en Ukraine. Dans les grandes villes, régulièrement, il y a une grande concentration, notamment des blessés et des personnes ayant subi une amputation. Je pense à la ville de Lviv, qui est devenue un gros centre de soins, à la fois des réadaptations physiques, mais aussi réadaptations psychologiques. Et c'est des lieux où on voit énormément de personnes mutilées de guerre, donc avec amputation, avec des blessures au visage qui sont présents et circulent dans l'espace public, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens acceptent cette altérité, la côtoient au quotidien, apprennent aussi à se comporter, en fait, avec ces personnes en situation de handicap. Et on le voit également à la fois du point de vue des changements dans la société, des rapports, tout simplement. Il y a énormément d'informations sur comment proposer de l'aide, par exemple, à une personne avec amputation, comment aider une personne ayant perdu la vue, mais aussi un certain nombre de politiques publiques qui se mettent en place et qui travaillent l'espace public, puisque cette question d'inclusion de ce vétéran de guerre dans l'espace public, elle est très présente et marquée.
Et ces politiques publiques, est-ce qu'elles s'efforcent de penser vraiment l'avenir, de le préparer ? Est-ce que c'est vraiment dans le débat public aujourd'hui ?
Je pense que cette double temporalité, à la fois présent et futur, elle est là, hein, et c'est impossible de faire autrement. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle des vétérans, la grande majorité des vétérans sont précisément des personnes qui ont pu être démobilisées pour des raisons de santé. Or, on sait qu'il y a encore énormément d'hommes et de femmes mobilisés au front, donc jusqu'à 800 000 de personnes qui, un jour ou l'autre, s'il y a la paix ou il y a une trêve qui est signée, qui peuvent être démobilisées. Et donc, ça augmentera nécessairement toute cette masse de personnes à traiter, à soigner, à prendre en charge, à réintégrer au plan professionnel ou encore à inclure tout simplement dans la vie civile. Et donc, nécessairement, ces politiques publiques sont réfléchies de cette façon-là. Et quand on parle des politiques publiques, j'ai parlé du soin, mais c'est la même chose pour les politiques, par exemple, mémorielles. Comment aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui sont mortes ? Et ça nous ramène à ce reportage au cimetière de Lytchakiv. Comment continuer à porter la mémoire ? Comment continuer à rendre hommage aux personnes mortes dans cette guerre ?
Et puis, il y a différentes temporalités, puisque la guerre, vous l'avez dit tout à l'heure, dure depuis encore plus longtemps dans les territoires annexés par la Russie en 2014. On a entendu Polina, hein, qui a fini par quitter la Crimée et qui veut s'engager dans l'armée ukrainienne. Son témoignage nous a donné un tout petit aperçu de la vie sous l'occupation russe. L'Ukraine refuse de céder ses territoires. Une majorité d'Ukrainiens rejette toujours cette idée de renoncer à ces territoires.
Oui, tout à fait. Enfin, si on regarde les sondages, effectivement, il y a une sorte de stabilité et d'attachement, finalement, au maintien de ces territoires et donc au rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine sur les territoires occupés. Mais il ne faut pas le penser en termes de territoire, et je pense que c'est l'erreur un peu de notre focale. Nous, on parle toujours de territoire. Les Ukrainiens parlent de personnes. Les personnes qui vivent sous occupation et toutes ces expériences donc qu'elles endurent sous occupation, à la fois indoctrinement idéologique et donc effacement de la culture ukrainienne, mais aussi la torture, la violence subie, l'expropriation. Laisser ces territoires aux mains des Russes, ça veut dire laisser les populations, laisser les siens, tout simplement, subir toutes ces violences-là. Et c'est pour cette raison-là que l'attachement à la préservation de la souveraineté, donc sur ces territoires, est extrêmement important. Ce sont plutôt les Ukrainiens qui comptent et pas les territoires ukrainiens.
Merci Yulia Choukan. Le grand reportage de cette semaine, Guerre en Ukraine, l'épreuve du temps, était signé Camille Magnard, Yachar Fazilov et Laurent Macchietti. Réalisation Annie Bro et Alison Biekrobeck. À la technique, Ludovic Auger. Au web, Caroline Beneteau. Documentation, Patricia Miura et Véronique Le Faller. Pour retrouver ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.